D'ici. Et d'ailleurs.
D'ici et d'ailleurs.
La revue culturelle
de Néo Géo.
Lecture instructive ou récit à vivre comme dans un polar. Aujourd'hui, je reçois Fabien Truong, écrivain d'un premier roman tout juste sorti, La taille des arbres, chez Rivage, et auteur de plusieurs ouvrages relatant ses enquêtes de sociologie en milieu urbain. Nous survolerons cette riche et intéressante bibliographie et présenterons son tout dernier roman. Installez-vous.
Néo Géo. Sur Nova Radio.
Bienvenue dans le mag d'ici et d'ailleurs, qui n'a jamais si bien porté son nom, tant il caractérise les sujets d'intérêt de notre invité, les réflexions sur sa propre identité constituée, comme pour beaucoup d'entre nous, de plusieurs héritages culturels, familiaux, historiques d'ici et d'ailleurs. Bonjour Fabien Truong.
Bonjour Bintou.
Je suis très heureuse de vous recevoir et découvrir vos travaux d'utilité publique, à savoir vos publications. Vous, le jeune agrégé qui fut prof de lycée à Saint-Denis, vous me dites si je commets des erreurs, et qui enseignait actuellement à l'université de Paris 8.
Oui, c'est ça. Puis j'ai pas enseigné qu'à Saint-Denis, j'ai enseigné aussi à Aubervilliers, à Stein, à Drancy, enfin dans plusieurs villes du 93.
Dans vos enquêtes, essais, récits, on n'est jamais bien loin des expériences que vous avez vécues auprès des jeunes de banlieue, que vous vous êtes attaché à suivre et comprendre. Je pense à des trajectoires de trois d'entre eux. Ça a paru en 2013 sous le titre « Des capuches et des hommes ».
Oui, alors c'était l'histoire de, enfin la trajectoire de trois garçons qui étaient mes élèves au lycée et avec qui j'avais de très très bonnes relations d'enseignants à élèves. Et puis en passant un petit peu à l'enquête ethnographique, c'est-à-dire en essayant de découvrir ce qui se passait hors des murs, de l'école, je découvre qu'ils ont aussi une autre vie qui est pas tout à fait la même que celle qu'ils montrent sur la scène scolaire, et notamment la question de l'entrée et la sortie dans la délinquance juvénile. Et du coup, ça permet un peu de casser les boîtes, tout blanc, tout noir, et de penser un peu les choses en relation, avec nuance, et puis aussi dans leur durée.
En 2015, aux éditions de La Découverte, le livre « Jeunesse française au pluriel », n'est-ce pas ?
Oui. Et donc là, c'est les trajectoires aussi d'un groupe d'anciens élèves, donc de filles et de garçons, que j'ai suivi pendant 7-8 ans, c'est-à-dire de leur obtention au bac, qui était un moment très important pour eux, parce que la plupart de leurs parents n'avaient pas eu le bac, et jusqu'à leur entrée dans la vie active. Et aujourd'hui, le livre sort en poche, et donc on a encore un peu plus de recul dans le temps, puisqu'ils sont en train de s'installer. Donc du coup, ça permet de voir ces trajectoires à bas bruit, dont on parle très peu quand on parle des questions de banlieue, de jeunesse, d'immigration, et on pourrait mettre plein de guillemets à tous ces mots qui sont très chargés, et de voir des choses dans une autre durée, et qui ça va un peu au-delà du spectacle médiatique sur ces questions-là.
Et en 2017, nous allons d'ailleurs en reparler ensuite, « L'islam et les mauvais garçons de la nation », c'est le sous-titre de « Loyauté radicale », toujours paru aux éditions de La Découverte. Et en 2022, « La taille des arbres », tout juste paru chez Rivage, vous nous le présenterez, ce premier récit, dans quelques instants, le temps de prendre le RER et rejoindre, comme en 96, notre ami rappeur Cici Rider, à Grigny, avec le groupe Made in Paris sur Nova.
Abdoul, le paria, le blues, et les gens ont les boules, le manque de flouze et de temps les saoule. Maintenant coule quelques minutes sur ce style funky soul. Tranquille, je me balade dans la ville capitale de Barbès aux abysses des Champs-Élysées au Wall. Y'a des clodos sur les trottoirs et des soulards dans les bistrots, des surveillants dans le métro qui jouent les Rambo. J'ai toujours un mec dans mon dos car je fais gaffe aux faces, je fais surtout attention aux cœurs car ils font mal leur cœur. Y'en a qui méritent des bars, tout comme mon estomac mérite à chaque fois qu'ils s'excitent. Vite ta mère caisse, vite paria le blues.
naissent à chaque seconde. Est-ce que tu piges? Les années 90, c'est le grand vertige. Fin de siècle oblige, fin de millénaire exige. Nous en sommes la génération et bientôt plus qu'un vestige. Le monde est en litige, la France se fige.
Paria le blues.
À l'instant sur Nova, un extrait de Paria le blues de Madeline Paris, un groupe qui a marqué les années 90 avec Cici Ryder, l'un des leaders, qui était de Grigny, ville que notre invité, sociologue et écrivain Fabien Truong, connaît assez bien, n'est-ce pas ?
Ouais, c'est une ville qui m'est chère, puisque c'est une ville où je passe beaucoup de temps. J'ai passé beaucoup de temps aussi, puisque j'y enquête. Vous avez parler de loyauté radicale, donc une grosse partie du livre se déroule à Grigny, mais j'ai aussi une enquête que je suis toujours en train de mener, qui donnera lieu à un livre l'an prochain, normalement, sur voilà, qui se déroule dans cette ville, puisque c'est une ville qui est vraiment le creuset de beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Quand on parle de quartiers populaires, etc., il faut savoir que Grigny, c'est à la fois la ville la plus pauvre de France, hein, si on suit ce que nous dit l'administration fiscale, et en fait, avec toutes les personnes qui sont pas déclarées ou qui n'ont pas de papier, là, en fait, le niveau de vie est encore plus faible que ce que les chiffres nous disent. Et c'est aussi une ville où il y a beaucoup de solidarité, de résistance. Par exemple, le maire de Grigny a récemment été élu le meilleur maire du monde. Alors, on peut discuter de ce que ça veut dire ou pas, mais il y a cette tension entre voilà, les très grandes difficultés de la vie, la concentration de la pauvreté, des difficultés et de la violence sociale, et aussi beaucoup de solidarité par le bas. Et voilà, c'est intéressant de regarder ça, encore une fois, dans le temps et dans la durée. Hein. Ça permet, il me semble, de mieux voir les choses et de sortir du spectacle.
Et d'avoir d'autres explications, par exemple de la radicalisation. Dans votre livre « Loyauté radicale », sous-titré « L'islam et les mauvais garçons de la nation », paru aux éditions La Découverte, vous citez Peter Naumann, directeur du Centre international d'études de la radicalisation à Londres, qui dit, pour parler de ce terme repris par beaucoup des journalistes aux institutions en passant par les politiques dans le contexte d'après 11 septembre 2001, je cite... L'idée de radicalisation permet de parler de tout ce qui se passe avant que la bombe n'explose, sans s'attarder sur la compréhension des causes profondes du terrorisme, toujours suspecte de produire une irresponsable culture de l'excuse. Ça m'a beaucoup intéressé.
Oui, alors ça c'était dans Loyauté radicale. Et donc du coup, oui, parce qu'en fait, radicalisation, c'est devenu un mot valise que tout le monde emploie. Et en gros, c'est plus ou moins devenu synonyme de violence, islam, attaque sur la voie publique, ou sans qu'on sache trop en fait ce qui se cache derrière tout ça. Et quand on regarde les choses un petit peu précisément et qu'on utilise peut-être un vocabulaire plus précis et qu'on nomme les choses et qu'on regarde les choses et qu'on prend le temps de regarder, bah, on peut voir que voilà, il y a des phénomènes très différents qui se cachent derrière ces mots. Est-ce que pour certains jeunes, c'est des questions d'impasse biographique? Pour d'autres, c'est des questions de socialisation très longue dans la délinquance, qui sont des cas assez rares, mais qui produisent des subjectivités particulières. Pour d'autres personnes, c'est des questions liées au rapport à l'avenir et à l'histoire d'un imaginaire politique qui n'existe pas, mais qu'on fantasme dans un ailleurs. Pour d'autres personnes, alors maintenant c'est moins le cas avec la fermeture des frontières, c'est des questions plutôt qui sont liées à la fugue et à la projection vers un ailleurs. Donc, bon, voilà, c'est l'objet d'un livre, donc je ne vais pas tout détailler. Mais
on ne peut pas s'en tenir aux injonctions venues de l'extérieur. C'est un petit peu ça que vous nous expliquez.
Oui. Puis du coup, si on s'intéresse vraiment au rapport des jeunes ou des moins jeunes, d'ailleurs, à la religiosité, sur toutes ces questions-là, on voit qu'on a des rapports très, très différents. Et donc, de tout mettre dans le même paquet, je dirais même d'un point de vue de sécurité publique, c'est un peu aberrant, parce que ça veut dire qu'on mélange... des chiffons et des torchons et des serviettes et tout ce que vous voulez ensemble sans prendre le temps de regarder voilà, des processus précis et des choses qui sont assez différentes en fait parfois.
Vous avez d'ailleurs dressé le portrait d'Amedi Coulibaly. On peut tout de même le citer, non ?
Oui, alors...
Responsable des attentats, enfin, la fusillade de Montrouge, c'est ça, et puis des attentats de l'épicerie Cacher.
Oui, alors moi, ce qui m'intéressait, c'était justement en étant à Grigny et en prenant vraiment le temps, c'était de retracer un petit peu, vous avez parlé de tout ce qui se passe avant que la bombe explose. Pour Amedi Coulibaly, comme c'est en plus quelqu'un qui a laissé beaucoup de traces, on a un petit peu une idée de son parcours, une fois qu'on pense qu'il a décidé de commettre des actes terroristes. Mais tout ce qui s'est passé avant, en fait, on le connaît assez mal. Et à Grigny, en enquêtant avec des gens qui l'ont bien connu, et qui l'ont bien connu sous des angles très très différents, ça peut être des bons amis, des anciens camarades, des mamans, des papas, enfin voilà, des gens qui avaient des relations très très différentes. L'idée, c'était de retracer la vie du garçon d'avant et de voir en quoi un certain nombre de phénomènes, alors je ne vais pas trop détailler, mais liés aussi à la, notamment à la haine de soi, par exemple. On peut pas vraiment comprendre la haine des autres si on comprend pas la haine de soi. Il y a beaucoup de choses, en fait.
Et qu'on peut rallier à l'acceptation de la société ou pas?
Oui, ou aussi à la façon. C'est vraiment aussi toute une question sur comment on se construit, en fait, dans l'adolescence par rapport à un certain nombre d'événements violents. Quelles sont les formes exactes de socialisation
Là, on parle de jeunes qui, en général, ont des parents qui sont d'origine d'Afrique ou de. Voilà. Et qui sont dans une espèce de double identité.
Oui.
Y a ce qui se passe à la maison, y a ce qui se passe à l'école, il y a comment on les.
Oui,
on les considère, on les a considérés.
Ouais, et puis tout ça, ça produit plein de conflits, mais même par exemple à l'intérieur des familles. Si on reprend la question de l'islam, bon, la tarte à la crème, c'est de dire le communautarisme, l'islam. Et en fait, il n'y a pas du tout un seul islam en banlieue, ni même dans les familles. J'irais même plus loin. En fait, ce qu'on voit dans le rapport à la religion entre les parents et les enfants, c'est très souvent l'islam est un vecteur de conflit, parce qu'en fait, l'islam des enfants n'est pas le même que l'islam des parents. Et c'est tout à fait logique, puisqu'ils n'ont pas grandi dans les mêmes espaces. Ils ne cherchent pas à répondre aux mêmes questions dans leur rapport à la religiosité ou au sacré. Ils ne lisent même pas les mêmes textes. Et donc, du coup, à travers le référent islam, c'est parfois aussi une façon de jouer des conflits un petit peu de génération, entre guillemets, mais qui sont tout à fait classiques dans un rapport de confrontation adolescent-parent. Et donc, quand on dit l'islam en un seul bloc et le communautarisme, on ne comprend rien à tous ces mini-conflits qui, une fois qu'on les regarde d'un peu près, ça nous permet de comprendre sans doute plus de choses que voilà, ces gros sabots médiatique.
Fabien Truong, je vous propose de nous retrouver à l'aéroport.
Ouais, on prend l'avion, d'accord.
Avec Pierrot, le prof, et puis une petite bande plus ou moins revêche, méfiante. Pas beaucoup sorti du bled. Quand je parle du bled, je parle pas des pays dont viennent leurs parents, mais je parle de leur cité de banlieue, peut-être, que j'appelle le bled, considéré un peu comme un village. Enfin bon, ce sont des jeunes que l'on retrouve dans votre livre « La taille des arbres », avec quelques notes d'une des destinations, puisqu'ils iront au Vietnam et en Nouvelle-Calédonie, à la rencontre des Kanaks, notamment. vous êtes en Nouvelle-Calédonie, chez les Kanaks, où s'est rendu Fabien Truong, donc avec un certain nombre d'adolescents et puis leurs profs, les encadrants. Vous pouvez nous redire un petit peu dans quel contexte ce voyage a été organisé ?
Oui, alors ça, c'est dans La taille des arbres, qui est un récit littéraire où je raconte et compte en fait deux voyages que j'ai fait avec Pierrot. Donc Pierrot, qui est un prof qui emmène ses élèves du lycée Paul-Éluard à Saint-Denis. Alors tous les ans, il les emmène à l'autre bout du monde dans des voyages très géopolitiques, on pourrait dire. C'est en fait à chaque fois, c'est des pays où il y a eu une histoire douloureuse avec beaucoup de conflits. Et là, on va parler d'histoire coloniale. Et l'idée, c'est d'aller y voir de plus près, de se frotter, de partir à la rencontre de ces conflits et de voir aussi comment, dans d'autres endroits, beaucoup de gens ont réussi d'une certaine manière à les surmonter ou en tout cas à poser des mots dessus. Et donc, et bien là, c'est l'histoire de deux voyages qui nous emmènent dans deux jungles assez différentes. La jungle de la Nouvelle-Calédonie et de l'autre côté, la jungle du Sud Vietnam. Et deux histoires coloniales dont on parle assez peu par rapport à d'autres en France. Hein, l'histoire du Vietnam et l'histoire calédonienne elles paraissent beaucoup plus à distance que par exemple, celle de l'Algérie ou du Maroc, enfin d'autres. Hein. Et là, c'était intéressant aussi parce que la plupart des jeunes avec qui on est parti, et je dis bien nous, parce que il y a pas trop de différence entre les adultes et les jeunes. Hein. C'est ça aussi la beauté de ce voyage, c'est qu'on était ensemble dans les mêmes endroits. Et bien voilà, en tout cas la plupart dans leur histoire migratoire, c'est le Mali, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, et aussi de avec leur histoire à eux de rencontrer ensemble, et puis il y a mon histoire à moi, puisque vous l'aurez sans doute remarqué avec mon patronyme, mais voilà, mon papa est vietnamien, donc moi aussi je suis passé par beaucoup de sentiments dans ces voyages. Et dans ce livre, on raconte voilà, ces deux voyages en passant d'un pays à l'autre, entre chaque chapitre, pour voilà, s'enfoncer un petit peu dans la jungle et rencontrer voilà, des gens qui...
Ces histoires de bout de France, enfin, je pense à la Nouvelle-Calédonie ou encore à toute l'histoire avec l'ancienne Indochine, finalement, et puis qui s'est poursuivie par la guerre du Vietnam, ça ne leur avait pas été enseigné. Ils découvraient totalement ces histoires.
Oui, alors pas totalement, parce que Pierrot, voilà, les sensibilise,
le prof, hein.
Ouais, voilà, un peu au départ, mais c'est pas du tout pareil aussi de rencontrer les choses dans les livres et puis de les vivre en vrai, parce qu'en fait, et pour revenir à notre discussion tout à l'heure sur la question de la durée, de la nuance, etc., ben, en fait, en étant avec des personnes et en vivant avec eux aussi, parce que voilà, l'idée, c'est de rester dans des villages et de prendre le temps de vivre avec les gens, bien un peu tous les imaginaires se dégonflent. Par exemple, quand on prend l'avion au départ, il y a un petit peu cette atmosphère dans l'avion où, en gros, quand on va en Nouvelle-Calédonie, au Vietnam, en gros, on va chez les colonisés, on va chez les dominés, et nous aussi, quelque part, on est un petit peu dominés, donc on va vers les nôtres. Et je mets des guillemets avec cette idée un petit peu, voilà, qui renvoie à la stigmatisation, à la souffrance, au racisme, à tout ça. Et puis en fait, dès qu'on pose le pied par terre, que ce soit au Vietnam ou que ce soit en Nouvelle-Calédonie, on se rend compte que pas du tout, en fait. On est avant tout, pour la plupart d'entre nous, alors moi c'est un peu particulier peut-être pour le Vietnam, mais c'est différent, très français. Alors ça passe par des choses très physiques. Déjà, nous sommes...
Avec une mentalité de dominant ?
Non, pas spécialement, non. Justement. Du coup, c'est ça, qu'il n'y a pas forcément un équivalent entre dominant, français, dominé, peau foncée, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Enfin, compliqué, non, c'est pas plus compliqué, c'est plus nuancé, en fait. Mais par exemple, et en Nouvelle-Calédonie, c'était très très fort, c'était... nous étions une délégation française, c'est-à-dire que notre minibus, c'était la France, et à chaque fois, quand on était accueillis, notamment dans les tribus kanak, alors là, ces chants donnent un petit peu une idée de comment on peut être accueilli quand on arrive en Nouvelle-Calédonie, mais dans les tribus kanak. Et il y a un rituel qui s'appelle la coutume. Alors, je ne sais pas si les auditeurs le connaissent, mais la coutume, c'est ce moment quand on arrive dans un endroit ou quand on en repart, ou quand on parfois discute de choses un petit peu sensible, on prend vraiment le temps d'exposer les choses, de se présenter, de dire ce qui nous tourmente, d'où on vient, où on veut aller. C'est un temps très... En fait, qu'on connaît.
On fait une offrande également.
Oui, voilà, mais qui est très, c'est vraiment une. On prend le temps de la rencontre et on prend le temps de mettre les mots aussi sur nos différences. Et on essaye à travers ce rituel aussi d'aller vers une forme de consensus. Et en fait, on est très peu habitué à ça dans notre société hexagonale où on va très très vite, où en plus de plus en plus, on a des directions, on a aussi beaucoup plus de mise en spectacle des conflits. On a quand même un système médiatique qui fonctionne essentiellement sur le clash désormais.
Et on va chez le psy de plus en plus.
Oui, et du coup, c'est un rapport à autrui et à la langue très très différent que j'ai essayé aussi de faire sentir dans le texte, puisque c'est un texte aussi qui joue avec ces effets dans la langue. Et voilà, nous étions accueillis comme Français. Et en fait, les Kanaks, mais aussi les Caldoches, alors les Caldoches, c'est une autre partie de... Parce qu'il n'y a pas que les Kanaks qui vivent en Nouvelle-Calédonie, de la population calédonienne. Nous étions accueillis comme les métropolitains, les Français. Et c'était un honneur. On nous remerciait toujours d'avoir voyagé aussi loin pour venir voir les gens. Et du coup, nous étions la France.
Ça a fonctionné comme une thérapie pour ces jeunes qui éventuellement pourraient se sentir quelque peu exclus dans la société française ou différent.
Non, thérapie, je sais pas, ça veut dire qu'ils étaient peut-être malades avant.
Est-ce que ça leur a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses ou est-ce que ça leur a fait du bien?
Oui, alors ça a provoqué énormément de choses. Alors je pense qu'on le sent dans le livre, il se passe beaucoup de choses assez fortes sur le moment, beaucoup d'émotions, de choses qui ressortent. D'ailleurs, dans le voyage au Vietnam, on avait, alors parce qu'on apprend toujours chemin faisant, nous faisions tous les soirs une coutume. Et ça, c'est ce qu'on avait importé. Voilà, comme je le dis dans le livre, on avait importé la coutume en contrebande de la Kanaky et on faisait cette coutume tous les soirs. On parlait de ce qu'on avait vécu parce qu'on a vu des choses aussi difficiles et qui pour moi aussi étaient personnellement difficiles. Hein. Au Vietnam, il y a vraiment notamment le scandale de l'agent Orange qu'on a pris en pleine figure. Alors, peut-être pour l'expliquer en deux mots, hein, l'agent Orange, ce sont tous les produits chimiques et la dioxine qui ont été déversés par les États-Unis, donc l'épandage pendant la guerre entre les États-Unis et le Vietnam, et qui ont pollué le sol, et le sol est encore regorgé de ce poison. Et vous avez des centaines de milliers de Vietnamiens, de jeunes Vietnamiens, qui naissent atrophiés, parce que voilà, ce qui passe dans le sol passe aussi dans le sang. Et donc, on avait besoin de discuter de tout ça. Et donc, voilà, ça a provoqué des choses. Et maintenant que le livre est sorti, le jour de la sortie, on s'est tous revus entre Vietnamiens et Calédoniens, entre guillemets. Et là, c'était très très fort de voir à quel point, plusieurs années après ces voyages, ces voyages étaient encore très très fortement dans les pensées, dans les cœurs. Et tous les jeunes en fait, qui ont participé à ces voyages, qui sont un petit peu moins jeunes maintenant, disent à quel point ça a impacté en fait, leur trajectoire, même la façon dont... Donc, ils regardaient le quartier, plein de choses, parce que voilà, ça aide à sortir un peu de soi-même, en fait.
La taille des arbres de Fabien Truong, bien, c'est à lire, il y a beaucoup de thèmes. C'est intéressant aussi, comme vous avez construit ce livre, avec ces voyages alternés, enfin ces récits de voyages alternés entre la Nouvelle-Calédonie et puis le Vietnam, et puis aussi, vers la fin, vos recherches personnelles. D'histoire de votre famille, puisque vous avez vécu ici avec votre grand-mère, la grand-mère vietnamienne, mais vous ne connaissiez pas forcément bien l'histoire du grand-père. Donc il y a toute une espèce d'enquête comme ça où vous cherchez différentes étapes de sa vie.
Ouais, et puis des traces en fait, puisque je vais découvrir. Alors voilà, mon grand-père il est mort. J'étais encore petit, donc j'ai juste des souvenirs très imprécis, personnels, mais assez forts quand même. Et puis je vais découvrir chemin faisant au Vietnam que lui aussi avait une place en fait dans la grande histoire entre guillemets, notamment qu'il avait participé à la conférence de Fontainebleau. Alors la conférence de Fontainebleau, c'est la conférence qui avait essayé de négocier la paix entre la France et le Vietnam quand la France a décidé que l'Indochine c'était fini en gros. Et puis tout un tas de petites traces. Et sur Fontainebleau, il a écrit un livre notamment. Et donc je pars à la recherche de ce livre avec Guoc, qui est un Vietnamien qui va m'aider.
Et qui vous aide en faisant des recherches sur Internet.
Hein, oui,
dans la modernité.
C'est un livre qui a été interdit, donc on le trouve du côté obscur du web. Et donc on part ensemble à la recherche de ce bouquin en billette sur les routes de Saigon. Enfin, de Ho Chi Minh Ville, ça dépend comment.
Merci beaucoup, à très bientôt. On peut retrouver moult informations et puis votre participation à différents festivals ou rencontres sur votre site, carrément, fabientruong.com. Et avant de se quitter, nous allons jouer un morceau que vous avez choisi, vous, l'ancien rocker, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Vous nous le présentez, ce morceau, et pourquoi l'avoir choisi?
Alors, c'est une reprise. Alors, la reprise a déjà 20 ans, et le morceau original, il est encore plus vieux. C'est une reprise faite par Rage Against the Machines, un groupe qui m'a beaucoup accompagné. Et notamment parce que je pense que beaucoup de gens connaissent ce groupe, mais la pochette du premier album, elle renvoie à l'histoire vietnamienne. Et donc, pour moi, ça a été assez fort quand j'étais ado, parce que je la connaissais mal, cette histoire. Et puis surtout, c'est une revisite d'un classique du hip-hop qui nous fait voir ce morceau de manière très très différente, et j'aime beaucoup l'idée de la revisite, qu'on redécouvre quelque chose qu'on croit connaître en allant ailleurs, et c'est un peu le sens de ces voyages aussi.
Merci beaucoup et à une prochaine fois. Je rappelle le titre de votre livre, La taille des arbres, de Fabien Truong, paru aux éditions Rivage. Vous écoutiez une reprise du Renegades of Funk d'Africa Bambaataa par Rage Against the Machine. Le choix de notre invité, l'auteur Fabien Truong, venu avec son récit littéraire La taille des arbres, paru aux éditions Rivage.
Neo Geo.